Le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir. Nicole Belloubet, légitime-t-elle le délit de blasphème ? La ministre de la Justice se voit reprocher ses déclarations au sujet de Mila, adolescente menacée de mort après des propos hostiles à l'islam. La parole se libère dans le milieu du sport. D'anciennes sportives de haut niveau accusent leurs anciens entraîneurs de viol ou d'agression sexuelle. Vous entendrez le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol. Boeing, dans le rouge, le constructeur américain subit sa première perte annuelle depuis 1997 à cause du 737 MAX. Enfin, au lendemain de l'annonce du plan de paix américain pour le Proche-Orient, les colons israéliens sont relativement satisfaits, mais ils tiquent sur la création d'un État palestinien. Reportage de Frédéric Mettezo. C'était il y a 10 jours. Mila, une adolescente de 16 ans, dialoguait avec ses abonnés sur son compte Instagram quand un échange avec un jeune musulman a dérapé. Mila a qualifié le Coran de religion de haine et ajouté qu'elle détestait toutes les religions. Elle a reçu depuis des menaces de mort, de viol, qui ont poussé sa famille à la cacher et à la déscolariser. Ce matin, la ministre de la Justice a été invitée à réagir sur cette affaire. Nicole Belloubet pensait tenir des propos mesurés. Ils ont en fait mis de l'huile sur le feu, Stanislas Vazak.
Oui, la ministre de la Justice a, semble-t-il, voulu ménager les susceptibilités dans une affaire qui est devenue un sujet politique. D'un côté, Nicole Belloubet assure le service minimum en condamnant les menaces de mort qui obligent Mila à rester chez elle. Mais de l'autre, elle tient des propos ambigus sur la liberté de conscience qui serait menacée par celles et ceux qui critiquent la religion. Voici ce que disait la garde des Sceaux ce matin sur l'antenne d'Europe 1.
La menace de mort est inacceptable. C'est absolument impossible. C'est quelque chose qui vient rompre avec le respect que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace.
L'insulte à la religion comme atteinte à la liberté de conscience, cette petite phrase scandalise l'avocat de la jeune Mila, Richard Malka, qui est aussi l'un des avocats de Charlie Hebdo. Pour lui, c'est simple, Nicole Belloubet a oublié que le délit de blasphème n'existe pas en droit français.
Le pire de tout, c'est que cela est fondé sur une ineptie juridique, une confusion absolue de ce qu'est le droit en France. La liberté de conscience, d'une part, qui veut dire que chacun peut croire à ce qu'il veut et peut pratiquer la religion qu'il veut, mais qui n'interdit pas la critique de la religion qui est totalement libre. Nous ne sommes pas dans une théocratie. Nous ne sommes pas, comme au Pakistan, dans un pays où le code pénal réprime l'offense au sentiment religieux. C'est exactement les mots qu'elle a employés, la définition du blasphème. Nous sommes dans une république laïque. Et dans une république laïque, eh bien, on peut dire ce que l'on veut de toutes les religions.
Richard Malka qui ajoute que la critique de la religion peut aller jusqu'à l'injure. En revanche, précise-t-il, le droit français ne permet pas bien sûr de s'attaquer à une personne en raison de son appartenance religieuse. Interrogée par l'AFP, Nicole Belloubet a reconnu, je cite, une expression maladroite tout en dénonçant une polémique ridicule. La ministre qui se défend d'avoir voulu justifier le délit de blasphème.
Stanislas Vazak, comment la laïcité à la française est-elle comprise par les élèves ? Le CNESCO, le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires, a mené l'enquête en partenariat avec l'Université de Genève. Selon cette étude, menée auprès de plus de 16 000 élèves de 3e et de terminale, il ressort que les élèves français adhèrent très fortement au principe de la laïcité, signe que l'enseignement moral et civique porte ses fruits, Sonia Princey.
Dans l'ensemble, les élèves français sont champions de la laïcité. Ils ont largement intégré le principe et ce qui est déterminant, c'est le niveau de connaissance civique des élèves. Les cours d'enseignement moral et civique qui existent depuis 2013 gomment les effets de l'environnement familial ou de l'origine migratoire. Mais il y a des exceptions, notamment dans les lycées professionnels, comme le souligne Nathalie Mons, responsable du Centre national d'études des systèmes scolaires.
Il y a bien un effet lycée professionnel qui n'est pas dû seulement aux connaissances civiques faibles de ces élèves. On fait l'hypothèse que c'est le regroupement, les problèmes de ségrégation sociale, scolaire, ethnique aussi, qui créent des effets de pair et qui renforcent donc une posture qui ne colle pas à la laïcité.
Dans l'éducation prioritaire, les atteintes à la laïcité sont également plus fréquentes, sauf dans les collèges, même très défavorisés, qui organisent des projets autour de ces valeurs. Les précisions de Barbara Fouquet-Choprade, sociologue à l'Université de Genève.
Les établissements qui ont des projets d'établissement en lien avec la question de la laïcité sont des établissements qui globalement présentent des profils d'élèves qui adhèrent plus aux valeurs de la laïcité, qui sont dans une ouverture par rapport aux autres religions, etc.
Signe que plus on se donne les moyens d'éduquer les élèves à la laïcité, plus cela produit ses effets.
Le journal L'Équipe et le magazine L'Obs ont enquêté ensemble sur les prédateurs sexuels dans le milieu du sport et ils ont recueilli des témoignages accablants. La championne de patinage artistique Sarah Abitbol accuse son ancien entraîneur de viol et d'abus sexuels quand elle était adolescente de 15 à 17 ans. Elle témoigne au micro de Léa Salamé de France Inter.
La honte, déjà la honte, oui, la peur comme vous le dites. Comment expliquer à mes parents, mais c'était même pas, je pouvais même pas y penser. C'était comment expliquer une chose pareille, une chose si horrible, si dégoûtante. Ça m'était impossible. Je me suis terrée dans ce silence avec mon mal-être. Et j'espérais une chose, que ça ne recommence pas.
Et ça recommençait.
Lors du stage à La Roche-sur-Yon, effectivement, il profitait de venir dans la nuit avec sa lampe torche et il me réveillait. C'était un cauchemar. J'étais une jeune fille pleine d'ambition dans le patinage et comme toutes les jeunes filles, on rêve au prince charmant. Et ce qu'il a fait au plus profond de mon corps, c'est terrible et c'est encore terrible aujourd'hui et c'est pour ça que je prends la parole parce que je suis encore malheureusement malade sous antidépresseur. Il faut pas être dans la honte, il faut que je sois courageuse, il faut que je serve d'exemple et je me bats aujourd'hui pour servir d'exemple et que cette honte se transforme en victoire.
Et Sarah Abitbol publie demain chez Plon un livre intitulé « Un si long silence ». Mais elle n'est pas seule à faire des révélations. Deux autres patineuses témoignent et d'anciennes nageuses aussi. La ministre des Sports salue la lutte de ces femmes. Pour Roxana Maracineanu, il faut responsabiliser davantage les fédérations sportives qui doivent informer leurs membres jusqu'à la plus petite association de France sur le sujet des violences sexuelles. 8e journée nationale interprofessionnelle, mais une mobilisation toujours en baisse contre la réforme des retraites. À Paris, il y avait plusieurs milliers de manifestants, égoutiers, enseignants, avocats, gilets jaunes, étudiants ou retraités. Et beaucoup avaient en tête les images qui ont beaucoup circulé hier, celles de pompiers échangeant des coups avec des policiers. Céline Autain a tendu son micro à François Sarfati, professeur d'université, qui accuse le gouvernement de double jeu.
Moi, je trouve ça très inquiétant parce qu'on a des simulacres de démocratie sociale. On est dans une situation où le gouvernement met en avant des enjeux autour de la social-démocratie et de la possibilité de négocier. Et en pratique, ce que l'on observe, c'est que hier, pour que le gouvernement lâche sur les pompiers, il a fallu des affrontements très lourds. J'étais moi-même observateur du côté du cours de Vincennes et j'ai assisté à une espèce de guérilla urbaine dans laquelle on avait des combats au corps à corps entre des corps des pompiers et des corps de la police. Et on voit bien que, en fait, ce gouvernement, malheureusement, comprend la force. Il a lâché chez les pompiers comme il avait lâché au préalable chez les forces de l'ordre. Ceci dit, personne n'est dupe non plus de cette idée que, au fond, ce régime universel, il est de moins en moins universel et on a lâché à des corps qui inquiètent le pouvoir et à des corps qui sont en mesure de faire régner l'ordre, alors l'ordre au sens républicain, mais qui est d'une certaine manière un désordre et une violence forte contre le mouvement social tel qu'il est constitué aujourd'hui.
L'intersyndicale se réunit ce soir pour décider de la suite du mouvement, mais des actions sont déjà prévues demain et vendredi. Le Conseil d'État se penchait aujourd'hui sur la légalité de la circulaire Castaner. Ce texte, envoyé à l'État, par l'État à toutes les préfectures, modifie la pratique du nuançage, ce classement des candidats en catégorie politique pour donner une photo nationale du résultat des élections. Dans la perspective des prochaines municipales, le ministère de l'Intérieur a décidé de n'attribuer ces nuances politiques qu'aux listes des communes de plus de 9000 habitants contre 1000 actuellement. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Face aux deux représentantes du ministère de l'Intérieur, les avocats des partis d'opposition étaient en nombre aujourd'hui.
Oui, ils étaient effectivement une quinzaine à faire face à ces deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, des avocats dont les arguments se sont enrichis les uns les autres. Sur le nuançage, ils insistent. Son rôle est statistique, il permet d'informer les citoyens sur les tendances politiques du pays dans la durée. LREM LREM fait ses meilleurs scores dans les villes de plus de 9000 habitants. Le seuil choisi va biaiser les résultats présentés aux Français, dénonce ainsi Antoine Lyon-Camp, l'avocat du PS. Cette mesure, elle a été introduite ex nihilo par le ministre de l'Intérieur, ajoute le député LR Olivier Marleix, qui a déposé un recours en son nom propre. La représentante du ministère de l'Intérieur tente de justifier. Cette idée ne vient pas de nulle part. En 2014, 82% des communes entre 1000 et 9000 habitants ont été nuancées dans la catégorie divers, précise-t-elle. Et cette catégorie, censée être résiduelle, est finalement devenue majeure. Divers tout court, interroge l'un des trois juges des référés. Et l'on apprend que parmi ces communes, finalement, 47% ont été classées divers droite, 28 divers gauche et seulement 24 en divers tout court. L'audience glisse alors vers l'autre sujet sensible, celui des 22 catégories choisies pour le nuançage, avec un recours déposé par Debout la France, parti très remonté parce qu'il est classé dans la catégorie extrême droite avec ce nuançage. Philippe Thor, le maire de Berlancourt dans l'Aisne, également avocat et présent sur les rangs, sur les bancs, s'explique. Le ministère de l'Intérieur, qui entend me coller cette étiquette d'extrême droite, nuit à ma capacité de me présenter. Certains des candidats sur ma liste ne veulent plus y être, explique-t-il. Il existe un droit de rectification des nuances, fait valoir la représentante du ministère de l'Intérieur, qui tente de recentrer le débat sur l'importance de l'étiquette, du logo, sans vraiment convaincre sur le fond.
Anne Fauquemberg. Un dossier bien délicat pour La République En Marche. Le bureau exécutif du parti présidentiel se penche ce soir sur le cas Villani. Cédric Villani qui refuse de retirer sa candidature à Paris malgré la demande d'Emmanuel Macron. Alors faut-il exclure le mathématicien du mouvement? Et si elle doit advenir, quelle forme doit prendre cette exclusion? Le choix n'est pas sans conséquence, Stéphane Robert.
Exclure Cédric Villani, c'est une belle connerie, estime un député du parti présidentiel. Et en disant cela, il résume l'état d'esprit dans lequel se trouvent plusieurs dizaines de ses collègues à l'Assemblée. Mais enfin quoi, rétorque le délégué général du mouvement Stanislas Guérini. Le président de la République lui a demandé de retirer sa candidature. Il a refusé et il a dit qu'il prenait sa liberté. Je vais donc demander au bureau exécutif, reprend le même Guérini, d'acter le fait que Cédric Villani s'est exclu de lui-même. Seulement, cette décision ne fait pas l'unanimité. Pourquoi aujourd'hui, demandent certains? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait l'été dernier? Et va-t-on aussi exclure ceux qui soutiennent Villani? La députée des Français de l'étranger, Paola Forteza, a d'elle-même décidé de quitter le parti ainsi que le groupe à l'Assemblée pour continuer à faire campagne auprès du mathématicien. Mais il reste le cas plus problématique du Grandson, député de Paris, vice-président de l'Assemblée. Lui aussi soutient Villani. Et puis quoi faire de tous ces autres dissidents, de ces marcheurs qui ailleurs, faute d'avoir été investis ou entendus, se présentent contre le candidat soutenu par La République En Marche? C'est par exemple le cas à Lyon, à Villeurbanne, à Amiens. Et il faut aussi régler le cas des deux ministres candidats à Biarritz. Et du coup, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, pourrait bien se voir exclu, lui, du gouvernement. Toutes ces velléités d'exclusion et de clarification indiquent deux choses inquiétantes pour La République En Marche et pour Emmanuel Macron. D'abord, qu'à l'approche du scrutin municipal, un vent de panique s'est levé au sein du parti présidentiel. Ensuite, qu'en 2 ans et demi, la formation politique du président de la République semble avoir été incapable de mettre en place une quelconque organisation.
Boeing bascule dans le rouge. Le constructeur aéronautique américain publie ses résultats 2019 et pour la 4e fois seulement de son histoire, Boeing est déficitaire. Il affiche une perte nette de 636 millions de dollars. Il y a 10 mois, Boeing avait dû immobiliser toute sa flotte de 737 MAX après 2 crashs mortels survenus fin 2018 et début 2019. Boeing a d'ailleurs perdu il y a quelques semaines son titre de premier avionneur civil mondial au profit de l'européen Airbus, Grégory Philips.
Le nouveau patron de Boeing, David Calhoun, se veut rassurant et sur la chaîne CNBC promet une approche réaliste pour faire face à la crise. Boeing a été créé il y a 104 ans à Seattle et c'est la 4e fois seulement de son histoire que l'entreprise enregistre un résultat annuel négatif. Au total, l'immobilisation des 737 MAX a coûté environ 18 milliards de dollars au constructeur. Et encore, cette somme ne prend pas en compte d'éventuels accords financiers avec les familles des victimes des 2 crashs de la Lion et d'Ethiopian Airlines. Surtout, Boeing ne sait pas s'il pourra un jour faire revoler les appareils de cette flotte et si oui, quand. Le PDG espère une remise en service pour la mi-2020, mais rien n'est moins sûr. Pour l'heure, la production des 737 MAX est suspendue dans les usines du groupe. L'avionneur n'a pas supprimé d'emploi, mais les sous-traitants commencent à connaître des difficultés.
Grégory Philips à Washington. Les Palestiniens condamnent le plan américain pour le Proche-Orient. Le plan prévoit une solution à 2 États, mais présente présente Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël. Il acte la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain et Washington se dit prête à reconnaître l'annexion par Israël des colonies implantées en Cisjordanie. Pour le président palestinien Mahmoud Abbas, le projet présenté hier par Donald Trump ne passera pas, mais il semble bien isolé, Franck Madvon.
Les pays du Golfe en particulier se montrent mesurés. On connaît pourtant leur attachement historique à la question palestinienne. D'abord, trois d'entre eux, Oman, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, étaient représentés hier par leurs ambassadeurs à la Maison-Blanche quand Trump et Netanyahou ont présenté leur projet. Un signe d'ouverture alors que ces monarchies n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. L'Arabie Saoudite déclare apprécier les efforts américains. Les Émirats parlent d'un important point de départ. Le Qatar salue aussi ce plan, tout en défendant un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Réaction prudente également de l'Égypte, qui appelle Israéliens et Palestiniens à un examen attentif et approfondi du document présenté par Washington. Le Caire accueillera samedi une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe qui condamne tout de même une grande violation des droits légitimes des Palestiniens. La France, elle, ne condamne pas le projet américain. Elle salue les efforts de Trump et rappelle son attachement à la solution à deux États, en conformité, précise le Quai d'Orsay, avec le droit international. Pour l'ONU, les frontières doivent rester celles définies en 1967. La Turquie compte parmi les rares pays à s'opposer fortement aux États-Unis, un plan d'occupation morné que le président Erdogan juge absolument inacceptable.
Notre correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo, a lui voulu recueillir les réactions des colons israéliens. Il s'est rendu à Eli, 4500 habitants au cœur de la Cisjordanie, entre les villes palestiniennes de Ramallah et Naplouse.
Depuis la colline, en haut de la colonie, on peut voir les neiges du mont Hermon, situé au nord-est d'Israël, et Tel Aviv, au bord de la mer au sud-ouest. Pour le maire, Ariel El-Malieh, dont les parents sont originaires du Maroc, on est en Israël et nulle part ailleurs.
Quand on est venu en Israël pour construire notre pays, on avait un rêve. Aucun endroit pouvait ne pas nous appartenir, car nos arrière-arrière-grands-pères étaient ici, en Israël, il y a 3000 ans.
Les Arabes, les Palestiniens disent la même chose, qu'ils sont là depuis des centaines d'années.
On sait qui était ici avant notre arrivée en Israël. Il n'y a pas de Palestine.
Franck vit à Eli depuis 18 ans. Il travaille à la boucherie du centre-ville et il a découvert le plan Trump hier soir.
On attend ça depuis très longtemps. Maintenant, on sait très bien que de l'autre côté, on leur propose quelque chose et ça, apparemment, ça ne leur suffit pas. On est pas à 100% d'accord de vivre avec eux, mais on peut être d'accord avec eux si eux, ils n'ont pas besoin à chaque fois de déclarer la guerre ou de faire des mauvaises choses.
Ça vous arrive dans votre vie quotidienne, justement, de croiser vos voisins arabes ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Juste quand on traverse des villages arabes, on les voit parce qu'ils sortent de chez eux. On peut les voir, mais on ne côtoie pas.
Ici, l'annexion par Israël allait de soi, estime Lali de Rey, conseillère régionale pour le Likoud, le parti de Netanyahou. Question de politique et de religion.
Si on prend la Bible, on peut s'en servir comme GPS. C'est-à-dire que dans toutes ces collines qu'on voit, c'est des endroits qui sont cités dans la Bible. Même si je suis très rationnelle, ce discours d'hier de Donald Trump, il a fait écho avec les choix que j'ai faits, en fait. Il y a une phrase de Abba Eban, l'ancien premier ministre de l'État d'Israël, qui disait « Les Palestiniens n'ont jamais manqué une occasion de rater une occasion ». Je pense que leurs aspirations devront être réduites, non pas à un État, peut-être à une autonomie.
Ron, étudiant en électricité, a même une proposition plus radicale.
Je pense qu'il y a beaucoup de pays arabes, comme la Syrie, qui les accepteraient.
Benjamin Netanyahou espère annexer les colonies de Cisjordanie avant les législatives prévues dans moins de 5 semaines.
Un reportage de Frédéric Mettezo. Malgré les pressions américaines, l'Union européenne ouvre partiellement sa porte à Huawei pour développer la 5G. Cette technologie Internet mobile ultra rapide qui devrait révolutionner nos pratiques pourrait donner lieu à des piratages et des espionnages. Pour l'éviter, les États-Unis ont demandé aux Occidentaux d'interdire purement et simplement le chinois Huawei. Mais comme le Royaume-Uni hier, l'Europe indique qu'elle ne fermera sa porte à personne, tout en imposant des règles drastiques pour ouvrir son marché. Les précisions d'Angélique Boin à Bruxelles.
Le protectionnisme, ce n'est pas l'ADN de l'Union européenne. Le marché reste donc ouvert. Mais pour y entrer, il faudra respecter un strict cahier des charges. Sans citer Huawei, ni même les Européens Nokia et Ericsson, le commissaire européen à l'industrie, Thierry Breton, précise la future règle du jeu.
L'Union européenne n'ouvre la porte ni ne la ferme à personne.
Certains industriels, peut-être, ne pourront pas répondre aux spécifications et donc ne pourront pas être retenus. D'autres peuvent y répondre peut-être tout de suite aujourd'hui. Et c'est tant mieux, nous en avons en particulier en Europe, qui sont très compétents et qui sont parmi les meilleurs au monde. Ben, ceux qui ne répondent pas à ces critères de sécurité, ils ne seront plus fournisseurs, ou bien ils s'adapteront. Je le répète, cette commission définit des règles. Tout le monde est bienvenu, mais tout le monde doit les respecter.
Il faudra par exemple que les logiciels de maintenance à distance, des antennes 5G, proches de sites sensibles comme une administration, une centrale nucléaire ou encore une base militaire, soient localisés dans des centres européens. La commission veut aussi imposer aux opérateurs télécoms plusieurs fournisseurs pour ne pas être dépendants d'un seul. Enfin, Thierry Breton rappelle que l'Europe est loin d'être à la traîne dans ce domaine. Une façon de rappeler que l'on pourrait sans doute se passer des Chinois à l'avenir. L'Europe détient plus de 50% des brevets mondiaux dans le réseau 5G et l'on se prépare déjà, dit-il, à la 6G.
L'Organisation mondiale de la santé demande au monde entier d'être en alerte et d'agir face au nouveau coronavirus. Pour l'instant, 132 décès ont été enregistrés. Il y a eu 5974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit plus que lors de l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002 et 2003. Météo France maintient tous les massifs des Alpes du Sud en risque avalanche fort, d'un niveau de 4 sur 5 pour la journée de demain. Des pluies vont traverser le pays d'ouest en est au fil de la journée. Les températures seront très douces, de 3 à 12 degrés au lever du jour. L'après-midi, il fera 11 à 14 degrés avec des pointes à 19 sur le sud-ouest et la Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.